Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bien, nous parlons aujourd'hui du développement du capital humain en République démocratique du Congo. Le capital humain, d'après les experts, c'est l'ensemble des aptitudes, des talents, qualifications, expériences accumulées par un individu et son développement contribue au processus de croissance économique d'un pays. D'après les informations reçues, une population qui n'est pas éduquée, qui n'est pas formée et qui n'a pas accès aux soins de santé verra sa capacité de production être réduite. Alors que faire pour investir plus dans le développement du capital humain à RDC? On en parle avec Dr. Michel Mouvoudi. Il est le coordonnateur de la plateforme CID, qui veut dire compétences, intelligence, développement et expertise. Dr. Michel Mouvoudi, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, capital humain, qu'est-ce qu'on on entend par ces concepts-là?
Merci, Jody. En fait, d'abord, je commence par dire merci à Radio Capi pour cette opportunité que j'ai de pouvoir m'adresser à la population congolaise. Mm-hmm. Mais en fait, le capital humain, par analogie, c'est comme un capital financier. C'est comme un bagage physique. Vraiment par analogie. Il faut le comprendre comme ça. Et donc, c'est, comme vous l'avez bien dit, c'est un ensemble. C'est en fait un potentiel que vous avez à pouvoir être rentable à un processus de changement. D'accord? Mmh. Et donc, si vous regardez ce qui se passe, c'est en fait l'ensemble de trois éléments. Primo, c'est d'abord les savoirs. Qu'est-ce que vous avez comme savoir en tant qu'humain? D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez comme expérience? Et qu'est-ce que vous avez comme compétence? Donc, ça, ces trois éléments, ces triades, constituent vraiment ce qu'on appelle les piliers du capital, ça veut dire du bagage que peut avoir. Mais encore une fois de plus, retenez que le concept n'est pas nouveau. Lorsqu'aujourd'hui on parle du capital humain, la première fois, on en a parlé, c'était en 1961, par un économiste de renommée qui s'appelait Theodor Scholz, en fait, qui avait justement pensé en ce terme, en disant, aujourd'hui, il faut penser à construire des hommes pour que les hommes construisent leur environnement, leur mm-hmm. écosystème. Et donc ça, c'est très important de le savoir. Et c'est parti un peu comme ça.
Construire les hommes, ça c'est intéressant.
Voilà, donc il faut construire le potentiel qu'ont les hommes à oui. pouvoir être rentables au développement. Donc le développement n'est pas seulement des ponts étincelants, le développement n'est pas seulement les infrastructures que vous voyez, mm-hmm. mais le développement c'est d'abord commencer par l'humain. Et donc ce terme de capital humain a commencé à prendre de l'ascenseur, notamment en 1965 avec un autre savant, Gary Becker, qui justement va développer le concept et il obtiendra même le prix Nobel en 1992. Donc on est en train de parler d'un concept qui est quand même ancien mais oui. aujourd'hui je pense que pour le RDC, ça vaut la peine de commencer à se dire, est-ce que investissons-nous suffisamment dans le développement du capital humain?
Alors, à quel état des lieux d'abord vous faites, docteur, du capital humain en RDC?
Alors, si vous prenez les trois éléments que je venais de vous donner en termes de savoir, okay, vous comprendrez tout de suite qu'en fait, il y a des secteurs qui sont des secteurs à fort potentiel de capital humain. Vous l'avez mentionné, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la formation de base. D'accord ? Mm-hmm. Alors, prenez la santé, je ne veux pas vous donner ici beaucoup d'éléments, vous vous rendez tout de suite compte qu'en fait, un élément important sur lequel je pourrais insister, c'est déjà le nombre d'enfants aujourd'hui en RDC qui ont un retard de croissance. Okay ? Le retard de croissance, en fait, c'est ce qu'on appelle la malnutrition chronique, mais en fait, cette malnutrition chronique a un impact sur le développement cognitif. Aujourd'hui, nous sommes à un enfant au moins sur deux qui souffre de cette malnutrition chronique en RDC. Donc, les enquêtes EDS qui ont été faites en 2013
montrent un enfant sur deux.
Un enfant sur deux en RDC, donc on est à 43%. Donc, ça veut dire qu'un enfant sur deux de moins de 5 ans a un retard de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, je dis? Ça veut dire, sur les 7 millions, si vous prenez la population totale en RDC, ben vous avez presque 7 millions d'enfants qui sont en déficit de croissance cognitive. Ça, c'est important. Donc, ça montre déjà qu'on est en fait en train de bloquer des générations futures. D'accord? Alors, si vous regardez encore en santé, ben, regardez le taux de mortalité chez les enfants, de la femme. Vous allez vous rendre compte, en fait, que tout ce qui est accès aux services sociaux de base, les enquêtes montrent que 20% seulement des populations congolaises ont accès aux services de base. Ça, c'est un problème. Alors, en éducation, N'en parlons pas. Aujourd'hui, le taux de scolarisation, vous regardez justement la situation de l'éducation en RDC, les investissements que nous apportons pour que les enfants aillent à l'école, n'est-ce pas? D'abord, en termes d'infrastructure, vous avez presque 60 000 écoles dans ce pays, mais il n'y a qu'un quart qui donne des conditions satisfaisantes.
Déjà, le budget consacré à l'éducation...
Voilà, qui est très faible.
Très faible.
Dans la santé, on est à moins de 6%. Donc, et les exécutions, n'en parlons pas, parce que déjà, le budget, il est à moins de 5% et on l'exécute presque à peine à moins de 50%. Donc, en fait, pour ces secteurs-là, on a des soucis très importants pour pouvoir construire déjà le capital des personnes qui sont là. Parce qu'un capital, c'est un investissement qu'il faut y apporter. Quand vous avez un capital, il faut y investir. Mais de l'autre côté, regardez tout ce qui est apprentissage. Vous allez vous rendre compte, en fait, qu'aujourd'hui, la formation en cours d'emploi, la formation continue, est devenue très rare. Si elle existe, elle coûte très cher. Pour une population à trois quarts pauvre, c'est difficile, justement, que les gens accèdent à des formations de base pour pouvoir être rentables au développement. Et donc, ça, c'est une situation, justement, qui va faire en sorte que demain, on risque d'avoir, pas on risque, on est déjà dans ce risque de ne pas avoir des personnes capables d'être rentables pour le développement. Et donc ça, c'est un souci majeur pour le pays, mais aussi un souci pour pouvoir soutenir le développement à long terme.
Et on apprend même que dans le pays, le taux d'analphabétisme est très élevé, surtout voilà. Parmi les femmes.
Oui, évidemment, parce que vous avez une population à quelles caractéristiques? Vous avez... Plus trois quarts de la population, c'est un milieu rural. Vous allez en milieu rural, vous avez un accès très limité aux informations, très limité à l'éducation, à la formation. Vous avez trois quarts de la population, c'est une population pauvre, d'accord ? Donc, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de base. Trois quarts de la population, c'est une population, justement, qui est dans le secteur informel, pas toujours bien organisée. Donc, du coup, quand vous prenez l'ensemble de toute cette chaîne d'éléments, vous vous rendez compte, en fait, que... on a une population aujourd'hui qui ne peut pas être préparée, n'est-ce pas, au développement du pays. Donc, du coup, l'investissement à faire aujourd'hui, c'est le capital humain. C'est construire des personnes qui puissent être capables de transformer et de participer au développement. Donc là, c'est des situations sous lesquelles il faut absolument qu'on y travaille.
Et comment construire ces personnes, développer leur potentiel pour être rentables au pays?
Alors, au-delà des investissements qu'il faut faire déjà pour qu'on accélère l'accès à la santé, aux soins de santé de qualité, n'est-ce pas? Déjà, les efforts à faire pour pouvoir investir dans l'éducation de base, ok, et à la formation, je crois qu'il faudra de plus en plus réfléchir sur des plateformes. Et c'est comme ça que justement, nous, on se dit, mais est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur comment créer une plateforme pour pouvoir... investir dans le développement du capital humain. Et c'est comme ça qu'on a créé...
Au-delà de ce que l'enseignement national fait, il faut qu'il y ait des plateformes à côté.
Voilà, il faut créer des plateformes, créer des synergies, des écosystèmes, si vous voulez bien, des gens qui se disent, mais oui, est-ce qu'on peut prendre cette problématique à bras le corps?
Parlez-nous du CID. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous êtes arrivé à mettre en place cette plateforme?
Alors, la plateforme existe depuis 2016. Elle est partie d'un diagnostic que je viens de faire, c'est que de plus en plus, on se rend compte que on a des potentiels dans ce pays, mais ces potentiels sont très polarisés. D'accord? Vous avez des gens qui ont la possibilité de pouvoir faire quelque chose pour développer le capital humain des autres, mais malheureusement, c'est des pôles. Aujourd'hui, prenez le cas de la formation, il y a des gens qui peuvent former. Je vous dis, si je te pose la question, qu'est-ce que tu ne peux pas expliquer aux gens pour être un bon journaliste à la Radio Capi? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire aux gens pour être un bon communicateur? Je pense que tu as beaucoup à dire. Mais malheureusement, est-ce que tu as cette facilité de pouvoir justement informer, former des gens? Peut-être pas. Donc il faut créer un écosystème, un cadre. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, par exemple, moi qui vous parle, j'ai eu des opportunités de faire des formations, mais il existait justement des opportunités d'être formé, parfois sur des subventions. Mais nous sommes dans un pays où les formations ne circulent pas, et donc du coup, l'information pour l'avoir, c'est difficile.
Oui.
Deuxièmement, on se rend compte que de plus en plus qu'on avance, personne ne s'investit à pouvoir créer, ce que vous voulez bien, un potentiel de relèvement. Comment on peut relever les autres? Comment on peut faire en sorte que si moi, je suis médecin, je suis spécialiste, comment je peux faire en sorte que je m'engage à soutenir ou à former ceux qui viennent après moi? Ça, c'est important.
À préparer aussi, la relève, comment on dit?
À préparer la relève. Nous, on appelle ça à préparer un potentiel de relèvement, une chaîne qui fait en sorte que nous nous tirons de plus en plus et nous devenons nombreux.
Oui.
Donc, cette segmentation de l'information, ces silos de l'information, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire des transferts du capital humain. Je vous informe que le capital humain est transférable. Ça veut dire que tu peux avoir un capital que tu peux transférer aux autres parce que justement, il existe des outils Par exemple, la formation qui peut être utilisée par rapport à ça. OK? Donc, là, c'est important de le savoir. Et donc, du coup, en 2016, on a réfléchi, on a dit, j'ai dit non, mais est-ce qu'on ne peut pas lancer un mouvement de solidarité pour commencer à travailler sur le développement du capital humain en modulaire? Donc, okay, on a dû réfléchir sur des programmes, et ces programmes, c'était les PIC, qu'on appelait les programmes intelligents collaboratifs. Et donc, c'est le PIC Bourse, éducation, santé, training et solidarité. Donc, je vais peut-être vous donner rapidement, en deux, trois mots, le contenu.
Oui.
Donc, les PIC Bourse, en fait, c'est une plateforme qu'on a créée au sein du site, justement parce qu'on se rend compte aujourd'hui, je dis, que les opportunités de formation existent. Moi, j'ai aujourd'hui des exemples, j'ai des témoignages dans le groupe où les gens, tout simplement pour avoir essayé, avoir été mis au courant d'une opportunité de bourse d'études pour pouvoir parfaire leurs études, ces gens ont essayé et sont partis étudier et sont revenus avec un niveau de connaissance très élevé et justement ont pu occuper des fonctions assez plus élevées. Et donc, et ils ont permis à ce que les autres aussi soient formés, mais aussi leur témoignage a permis aux autres d'y aller. Et donc, le site ouvre ces espaces-là où nous partageons
des informations, des opportunités, des bourses, des formations.
Oui. Parce que si nous, à Kinshasa, déjà, c'est un problème pour certains, alors la RDC, c'est 2 345 000 km². Ah ben, tu t'imagines, qu'est-ce qui se passe à Kanyabayonga, qu'est-ce qui se passe à Calais, qu'est-ce qui se passe à Bunyakiri, qu'est-ce qui se passe à Kanzenze, là-bas.
Oui.
Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller dans un modèle de réseau où on informe et on dit aux gens, écoutez, essayez, il existe des opportunités de formation. Alors, le site d'éducation, comme je vous ai dit, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on te le dira partout, les pays émergents ont investi dans l'éducation. Tous les pays émergents aujourd'hui,
diront,
la clé de la réussite, c'est l'éducation.
C'est l'éducation.
Malheureusement, on n'est pas là. Nous, quand vous voyez ce qu'on fait dans l'éducation, on se dit, mais quelle est finalement la clé de notre développement? Si on ne veut pas mettre l'éducation au centre, on est foutu. On ne va pas y arriver. Et du coup, nous, dans le groupe, on a créé justement une mobilisation sur les membres, des cotisations que nous apportons pour pouvoir soutenir l'éducation de base à travers
En attendant que le gouvernement puisse mettre beaucoup
de moyens. En disant au gouvernement, écoutez, recentrer l'éducation parce que le capital humain va se construire avec l'éducation de base. Donc nous n'allons pas attendre, mais nous le faisons déjà et nous demandons justement à ce que s'il y a des programmes qui peuvent se mettre en place, que l'éducation soit centrée. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans éducation à la base. Okay? Et le site santé, c'est justement tous ces programmes que nous mettons en place à travers l'accès aux soins, n'est-ce pas? À travers la lutte contre la malnutrition chronique, parce que comme je vous ai dit, c'est une malnutrition qui atteint le développement cognitif. Et donc, du coup, vous avez des personnes qui arrivent, mais qui n'ont pas le potentiel d'être capables d'aller plus loin. Mmh. Et donc, du coup, il faut travailler en amont pour éviter ça. Et nous avons le site running. Dans le site running, je dis, c'est vraiment... On insiste sur les formations. Mais les formations vous coûtent cher. Les formations, c'est parfois beaucoup d'argent que les gens n'ont pas. Mais nous avons dans le groupe des gens qui viennent, qui disent, écoutez, moi je suis un ingénieur, moi je suis un grand manager, mais écoutez, je suis prêt à pouvoir vous apporter sur des conditions assez légères des formations pour qu'on ait une masse critique des gens. Et c'est très important de montrer aux gens qu'on peut s'inscrire dans cette dynamique de formation parce que le renforcement de capacité fait justement partie des investissements qu'il faut avoir pour votre capital humain. Vous terminez les études, vous êtes diplômé d'État, mais pourquoi il y a un qui décide de faire son graduat, sa licence et même sa maîtrise? Et vous allez voir qu'en fait, en augmentant vos connaissances, vous augmentez votre potentiel à être plus rentable.
Bien sûr.
Okay? Et finalement, vous avez le site de Solidarité, justement, qui est un programme assez robuste où nous pensons que la manière de pouvoir diminuer les inégalités, c'est aussi créer des espaces de solidarité. Au-delà de ce que les gens pensent, parce qu'aujourd'hui, on est tous un peu affiliés à sa tribu, on est tous, si je veux faire quelque chose, il faut qu'il soit
chez moi. Il faut que je cherche, mon frère, c'est qu'il n'est pas intéressant.
Voilà, aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai toujours dit aux gens, mon expérience que je suis devenu aujourd'hui, ça n'a jamais été le concours d'une tribu. Ça a été des gens que je rencontrais comme ça, qui m'ont dit, mais tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc du coup, il faut casser ces silos et dire aux gens, écoutez, si on veut être une nation, c'est d'abord la solidarité.
La solidarité.
C'est que moi, je peux aider, si j'en ai, et l'autre peut aider. Et du coup, nous pouvons avoir des limites. Je vous donne un cas.
J'aurais bien à vous, dans quelques minutes, le temps d'accueillir trois auditeurs qui attendent déjà.
Okay.
Comment investir dans les capitaux humains et quels sont les bénéfices des sites d'investissement. Marcel Didier Passois, vous êtes à Luisa. Maître Ngan ou Gaston à Kinshasa. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Marcel Didier, bonjour.
Monsieur Dioti, bonjour. Bonjour également à votre invité que je respecte bien, c'est Dr Michel Mouvoudi qui est dans les installations de Radio Okapi. Nous sommes tellement heureux, personnellement, je suis très heureux par rapport à la thématique, monsieur Doudi, qui parle du capital, l'investissement dans les capitaux humains, qui est pratiquement, qui concourt au cours de cette plateforme intitulée CID, dont lui-même est l'initiateur. Je suis très heureux de cette initiative. Voilà, je voudrais partir directement à l'objectif. Je prends les valeurs du CID, comme lui-même a un peu essayé de détailler là-dessus. Je voudrais demander à Dr Michel Mouvoudi comment pense-t-il s'y prendre par rapport à l'autoprise en charge. Je prends les valeurs du CID seulement, je prends le deuxième aspect, l'autoprise en charge et la motivation intrinsèque au développement. Je voudrais savoir comment est-ce que le docteur Michel Mouvoudi pense-t-il comment il doit s'y prendre par rapport à ceci. De deux, la communication et le partage des expériences dont il s'agit. Est-ce que il y a les mécanismes d'accession à cette communication et partage, parce que vous allez voir à un certain moment qu'il y a des opportunités, il y a des partages, mais vous pouvez juste apprendre dès lors que peut-être le recrutement a déjà pris fin. Comment pense-t-il aussi s'y prendre par rapport à cela? Pour encore aller plus loin, je demande à monsieur Michel Mouvoudi comment accéder à cette plateforme de CID. Et enfin, je voudrais savoir également quelle différence, quelle convergence et divergence entre cette plateforme et d'autres plateformes politiques. J'ai dit et je vous remercie, monsieur Dodi, en direct de l'USA.
Merci, maître Gaston Ngandou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, je vais illustrer mon argumentaire des champs de batailles très différents où je constate la majorité de la manière qu'on se bat pour acquérir des biens, vous savez, des biens, acquérir des richesses, posséder de l'argent. De la même manière, les gens se battent aussi pour posséder des connaissances qui sont en réalité, à mon avis, des marchandises qui peuvent vous servir ou servir aussi les autres. Alors, la majorité des Congolais, ce sont ceux qui s'élèvent pour se battre comment trouver son pain, se battre comment avoir de la gloire, surtout aussi les...
Mais ne se battent pas pour se former.
Oui, se battre pour se former, ils sont là. Mais c'est là où que nous sommes pour le moment où nous comprenons une chose, que lorsque vous êtes formé, vous possédez des connaissances, des compétences, des savoirs, vous pouvez évaluer ça, vous pouvez
transformer
ça comme la marchandise de
Talisman. Bien sûr, c'est un capital. Alors, maître Ngandou, quelle est la question que vous adressez au docteur Michel?
Voilà, d'abord la première préoccupation, parce que lui parle au nom d'une structure. Est-ce que cette structure-là existe légalement? Parce que je voulais aussi parler de l'informel dans le domaine de vulgarisation des connaissances. Je pense que les champs, que tout le monde qui possède les connaissances pouvait s'investir dans les détails, donner même bénévolement, même gratuitement les connaissances que vous possédez pour transformer la majorité qui en a besoin. Mais nous constatons que les savoirs sont vendus, les connaissances et tout comme ça. Mais cette structure, est-ce qu'elle a une existence légale? Je veux dire la personnalité juridique. Mmh. Parce que nous aussi, depuis 2012, nous avons une structure qui vulgarise les connaissances. Mais lorsqu'on a un projet de qu'on veut introduire au nom de la structure, on ne finance pas parce que nous sommes bloqués quelque part. On est avancé.
D'accord. Merci, maître Ngandou. D'accord.
Ça, c'est la première et puis la dernière, si je pouvais.
Oui, rapidement. Les autres attendent rapidement.
Voilà. Je voulais, si vous pouvez, la statistique, si vous pouvez nous donner une idée du niveau. Et comme vous l'aviez dit au départ, il faut combien de temps pour la transformation des Congolais? Combien sont transformés? Et jusque-là, parce que je pense même pas 1%.
Merci. On va accueillir Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour.
Merci, monsieur Jourdi. Moi, je suis également à notre invité. Je pense que, dans mon avis, l'investissement dans les capitales humaines est une affaire incontournable, hein, et surtout pour un pays qui se veut vraiment grand et fort, avec les potentialités mises en vedette. Je pense que tout pourra aller mieux. Fort malheureusement, le problème se pose au niveau de l'enfant à partir de bas âge, parce que l'éducation et surtout avec une.
Jérémy, désolé, la communication
La communication n'est pas du tout bonne, vous sortez entrecoupé, donc difficile de continuer dans ces conditions-là. Peut-être je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu, si peut-être qu'il y a, ça peut s'améliorer. Allez-y rapidement alors.
Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, je disais, à mon humble avis, l'investissement dans le capital humain est une affaire vraiment incontournable, et surtout pour un pays qui se veut grand et fort. Avec des potentialités mises en vedette. Malheureusement, les problèmes se posent au niveau de l'enfant, des bas âges, parce que je sais que la bonne éducation, l'instruction solide contribuera efficacement donc, et donne lieu à un capital humain considérable. Là où les bas blessent, monsieur Jody, c'est qu'on ne sait pas promouvoir les ressources humaines congolaises. On préfère peut-être jeter les regards ailleurs, voir plus loin, parce qu'on n'a qu'à voir aujourd'hui, on ne sait pas valoriser les capitales, c'est-à-dire on ne sait pas valoriser ce que nous avons comme capital interne à capital humain. C'est un peu à contourner la forme. Avec à voir, lorsque vous avez deux personnes, une personne qui étudie ailleurs, et on lui donne plus les opportunités qu'à celui qui est au Congo. C'est-à-dire on est un peu démarginalisé. Celui qui est au Congo, au détriment de celui qui vient d'ailleurs. Je pense que nous devons promouvoir, nous devons nous-mêmes chercher un peu à donner un peu, et donc, c'est-à-dire à ouvrir un horizon, un
espace
considérable
d'accord.
pour nous, pour nous, question de pouvoir remettre, et surtout créer un peu de centres de promotion. Enfin, je veux dire, des organes, un peu des organismes, hein, question de pouvoir élargir un peu le terrain.
D'accord, merci Jérémy. Merci Jérémy Mwamba de Lumbashi. On va accueillir Johnny Kazadi de Mbujimayi. Johnny, bonjour. Ah, désolé, la communication n'est pas très bonne, Johnny. Désolé. Docteur Mouvoudi, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Johnny. Merci à ceux qui ont fait des commentaires et des questions posées qui me semblent très, 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 très pertinentes. Mm-hmm. En fait, par rapport à notre collègue de l'USA,
Marcel Didier.
Oui, voilà, Marcel Didier. Les valeurs que nous mettons dans le groupe, dans la plateforme, c'est d'abord l'autoprise en charge. Donc l'autoprise en charge, c'est d'abord que la personne comprenne que si je veux développer mon capital humain, c'est ma responsabilité premièrement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que les gens pensent que ce qui va devenir demain, ben, ça va être que l'affaire des autres? On le voit. Donc moi, j'ai croisé des personnes, quand vous lui dites, mais écoutez, il y a une telle formation, il y a telle action à faire par rapport à toi-même, parce que tu dois devoir aller de l'avant. Mais la personne te dit, mais écoutez, moi j'attends que peut-être mon employeur décide, moi j'attends qu'on me donne de l'argent. Mais je te dis qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont arrivés au niveau où ils sont arrivés, parce que tout simplement eux-mêmes ont pris le devant en disant, je veux investir pour ma formation, je travaille le matin et j'étudie le soir. Vous avez vu des cas comme ça dans ce pays.
Oui, il y a eu.
L'autoprise en charge, c'est déjà prendre conscience qu'en fait, je ne peux rien avoir si moi-même je ne prends pas cet engagement à l'interne. D'accord?
Il y a certains qui travaillent, qui font des formations en ligne.
Le soir, des formations en ligne. Oui. On a vu des gens épargner sur leur salaire et aller se faire former. On a des témoignages dans les réseaux. Et donc ça, c'est très important pour déjà commencer à changer la mentalité par rapport à ce paradigme. Deuxièmement, c'est que en fait, la motivation intrinsèque, c'est comprendre déjà que si vous-même au départ, vous n'êtes pas motivé de manière personnelle à modifier votre environnement, à modifier votre savoir, à investir dans vos compétences, ben vous n'allez pas y arriver. Donc, mais ces valeurs, vous les obtenez aussi dans l'espace où vous êtes. Parce que si je suis diplômé d'État et que j'ai des témoignages, je suis entouré des gens qui me montrent comment eux ont pu, par exemple, travailler le matin pour pouvoir étudier le soir, et qu'ils sont devenus après des licenciés et autres, et travaillent dans des grandes institutions, mais ça peut aussi m'inspirer à le faire. D'accord? Donc ça, c'est quoi que c'est très important. Et donc, la communication va être un élément important, va être un pilier prépondérant pour pouvoir arriver à toucher l'ensemble de Congolais sur l'espace de notre pays. C'est comme ça que, justement, pour aller dans le même sens, c'est pousser beaucoup sur la communication, et justement le site a ouvert des cafés rencontres. Nous organisons à travers le pays des cafés rencontres où justement nous essayons de partager les informations en rapport avec les opportunités de développement du capital humain, mais aussi où nous écoutons les gens pour pouvoir les aider à poser leurs problèmes et on les oriente. Et je peux te dire que ces espaces sont gratuits. Vous participez gratuitement à ces genres de choses parce que notre but, c'est de dire, mais nous qui avons, dans quelle mesure peut-on nous coaliser, nous mutualiser pour pouvoir aider le plus grand nombre de gens. D'accord. Et nous avons le numérique que nous utilisons. Donc, je pourrais donner quelques informations avant la fin de l'émission. Nous avons un site web, nous avons des pages Facebook, nous avons des Twitter, nous avons des groupes WhatsApp que nous utilisons justement pour partager les informations. Alors, ce qui est important, c'est que pour notre ami qui veut devenir membre de la plateforme, si c'est, ça l'intéresse, justement, on pourra lui donner un numéro à la fin qu'il pourra contacter. Et en fonction de sa localisation, il pourra joindre le groupe et commencer justement à réfléchir sur son agenda de progression. Alors, sur la question du statut juridique, je pense que je vais recouper avec la question de notre ami qui disait, mais est-ce que ce n'est pas par hasard un parti? Non, on a un
statut... Ce n'est pas un parti politique.
Pas du tout. Et justement, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Les pays qui ont réussi, ce ne sont pas des pays là où vous avez le plus grand nombre de politiciens, vous le savez. Les pays qui sont devenus émergents sont des pays où vous avez le plus grand nombre des avocats qui font bien leur travail, des ingénieurs, n'est-ce pas, des managers, des gens qui travaillent sur le développement. Je vais vous faire rire parce que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, avant les élections, un ami qui me dit, mais Michel, tu sais quoi, je vais postuler pour être député. J'ai dit, mais pourquoi tu postules? Il dit, mais écoute, je vais tenter ma chance parce que je pense qu'elle est en
député. Les gens pensent que c'est en politique où on peut gagner.
Regardez le nombre des gens qui ont postulé.
Énorme.
C'est un message qui dit tout simplement, attention, on est en train de devenir un système en déclin. Les gens pensent que pour être développé, il faut faire de la politique. Non, là où les gens sont développés, ce n'est pas la politique, c'est le développement du capital humain. C'est des gens qui travaillent pour le développement. C'est la main d'œuvre justement, en faveur du développement. Et donc, c'est comme ça que nous... Justement, on travaille sur ça et on veut justement être inclusif. Parce que le modèle, je dis, excuse de te le dire, le modèle de parti tel qu'on les a aujourd'hui chez nous, mais c'est parfois aussi quelqu'un un peu sûr, je suis de tel parti. J'ai toujours dit à quelqu'un, si tu me dis de quelle province tu es originaire,
je peux te dire
presque sans tromper de quel parti tu es. Ouais. Alors que le modèle de développement, c'est d'être un modèle inclusif qui intègre les gens. Mais quand vous voyez les messages aujourd'hui, qui sont passés à travers nos réseaux politiques, mais parfois c'est des messages de séparation. Si tu n'es pas tel, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas tel. Et donc, ça, je crois qu'il faut déjà commencer à être.
Donc, le site n'est pas un parti politique.
Voilà, on a des statuts et nous sommes un établissement d'utilité publique. Et donc, Maître Gaston peut aller sur notre site www.site-rvc.org. Il verra nos documents juridiques. Donc, on est un établissement d'utilité publique. Et donc, je suis d'accord avec lui, Maître Gaston, merci beaucoup. Ce qu'il faut vraiment travailler sur les connaissances, parce que aujourd'hui, le monde évolue. Le monde évolue très vite. Nous avons des nouvelles technologies, nous avons des nouvelles connaissances qui arrivent. Si nous ne nous mettons pas au diapason de tout ce qui arrive comme innovation, mais nous restons décalés. Il y a des années, quand vous aviez un diplôme d'État, mais vous étiez quelqu'un qui pouvait même travailler sans continuer.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Oui. Et à l'époque, vous pouviez finir sans connaître l'ordinateur. Mais vous pouviez être engagé. Moi, je connais des gens qui ont travaillé sans connaître l'informatique. Mais aujourd'hui, ça devient quasi obligatoire. Donc, à la vitesse de l'évolution de la science, si quelqu'un ne se forme pas, ne se met pas à jour, n'augmente pas en connaissance, ben du coup, c'est ce que j'appelle la dévaluation intellectuelle. En fait, il dévalue. Donc, c'est très important maintenant d'ouvrir ces espaces pour pousser les gens à ne pas être en retard. Nous avons une population qui a un indice de fécondité de 6,6 et un taux d'accroissement de 3%. Chaque 25 ans, la population de la RDC va commencer à doubler. Déjà en 2030, on sera 120 millions, selon les démographes. Mais avec une population constituée principalement d'une population dépendante dans la structure. Donc du coup, si on ne travaille pas sur ce rattrapage de connaissances, donc on ne va pas y arriver. Et donc là-dessus, je crois que c'est très important. Jérémy l'a mentionné. Donc la promotion des ressources humaines, elle est très importante.
Très important.
Tous les pays émergents ont compris. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir ces espaces. Et je peux vous dire, Jody, je pense que s'il y a des membres qui vont pouvoir peut-être témoigner, nous essayons d'apporter cette accessibilité à ces gens de renforcement vraiment de manière très accessible. Il y a des conseils que nous apportons gratuitement. Nous essayons de vulgariser des opportunités gratuitement. Et justement, nous essayons de conduire les gens vers des systèmes où on peut renforcer leurs capacités en leur disant, mais c'est parfois un effort à faire, n'est-ce pas? Mais c'est parfois aussi une information qui manque, qu'il faut mettre à la disposition des collègues. Et donc, c'est une marche et je pense que... On est encore en train de travailler sur le réseau. On voudrait au maximum toucher le plus de Congolais. Le réseau est sur l'ensemble de la RDC. Et notre souci, c'est justement avoir un pays où le capital humain devient une réflexion qui commence déjà à la base dans les 145 territoires, dans les mouvements civils, ainsi de suite.
Il y a Jérémy qui a dit quelque chose. Il dit, c'est quelqu'un qui est formé à l'étranger, par exemple, quand il revient, il est plus considéré que celui qui a fait sa formation ici au pays. Pourquoi c'est complexe là?
Alors, deux points là-dessus, même trois. Premier point, c'est que, je vous dis, tu sais très bien que le diagnostic de la formation au niveau pays est très mauvais. D'accord? On sait maintenant aujourd'hui, après toutes ces enquêtes, que la formation que nous avons dans notre pays, c'est une formation qui doit être vraiment rénovée, d'accord? Parce que tout simplement aussi, il y a beaucoup de cas de corruption, n'est-ce pas? Tu connais la qualité de l'enseignement, il faudra qu'on y travaille, je pense que ça devrait être une priorité pour les gouvernements actuels, d'accord? Et donc du coup, quand quelqu'un termine en dehors du pays, on a tous ces différentiels, on se dit, ah oui, il vient d'un pays développé, on suppose qu'il a eu des enseignements à la hauteur. Donc ça, c'est important déjà que nous-mêmes, on commence à travailler sur la crédibilité que nous donnons à nos systèmes de formation. Primo. Secundo, c'est très important de comprendre que, en fait, même en RDC, il existe justement des espaces où on forme des gens convenablement. Mais il faut le savoir. Il faut savoir que non, moi je dis, si je voudrais par exemple étudier à tel endroit, ben je pense que là où je vais, la formation est de qualité, c'est une structure accréditée. Il y a aujourd'hui des pullulations des institutions de formation.
Institutions comme ça, oui.
Et parfois, les gens ne savent pas, est-ce que c'est des institutions qui ont des normes requises. Donc, c'est important d'informer dessus, mais de travailler beaucoup sur la question de gouvernance, comme je l'ai dit au premier point. Et tertio, je dis, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'étudier, même en restant au Congo. Moi, j'ai des membres, des milliers de membres dans le
groupe.
Des formations en ligne et qui, justement, mutualisent leurs moyens pour avoir l'Internet à travers le réseau et qui ont des diplômes délivrés par des institutions étrangères. Donc, aujourd'hui, le numérique peut justement devenir un capital à saisir, peut devenir une opportunité à capter pour justement arriver à ces formations-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit toujours dans le groupe? Dans le groupe, dans la plateforme, nous avons suffisamment des gens qui ont eu ces opportunités de bourse d'aller étudier à l'étranger.
Un instant. Alors, trois auditeurs atteints depuis un moment. Donc, on va les accueillir et je reviens à vous tout à l'heure. Vous voulez participer à cette émission qui s'intéresse à l'investissement dans le développement du capital humain? Appelez au 081 890 63 94. Jacques, vous êtes à Kikwit, Pierrot Pagna, à Lubumbashi et Johnny Mbujimai. Jacques, bonjour.
Ce n'est pas Jacques, c'est Grâce à la Kikwit.
Pardon?
Grâce à la Kikwit, ce n'est pas Jacques.
Ce n'est pas Jacques. Ok, d'accord, allez-y.
Oui. Bonjour d'abord à la radio Café, bonjour à l'invité.
Bonjour, quelle est votre question, quelle est votre préoccupation?
Parmi les actes majeurs du cadre stratégique pour la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, l'éducation est considérée comme un temps capable de contribuer à la croissance économique. Il faut donc construire un socle sur lequel toutes les stratégies d'amélioration doivent s'appliquer pour arrêter la dégradation et engager dans une perspective de la qualité. D'où l'État doit prendre ses responsabilités en main. Alors, ma question est de savoir pourquoi en RDC, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont supposés contribuer au développement et de lutter contre la pauvreté. Mais la pauvreté des Congolais demeure.
Bien, merci. Pierrot Pagna de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité et bonjour à tous les les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question par rapport au thème du jour, Pierrot? Quelle est votre question par rapport au thème du jour, rapidement?
Merci, je dis. J'ai mis ma question sur Facebook quand j'étais en train de naviguer. La question que j'avais, que j'ai dit, c'était... il y a les chercheurs que vous avez dit qui ont fait ces recherches pour trouver que pour développer le capital humain, il fallait d'abord avoir l'expérience telle que vous l'avez énumérée, il fallait la qualification, il fallait aussi les talents et le quatrième qui vient de m'échapper.
Les compétences. Les compétences, le savoir, l'expertise, les compétences, voilà.
Ouais, alors. Là, je suis sûr, mais je suis en train de dire que parfois, les chercheurs se sont trompés aussi en énumérant tout ce critère-là. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir la qualification d'abord. Nous avons beaucoup de gens qui ont beaucoup de licences, qui ont étudié, qui ont fait beaucoup d'expériences et qui ne parviennent pas à nous produire, à nous faire de bons travails. Nous avons vu des grands papas, des anciens qui ont travaillé dans les gouvernements passés, qui nous ont produit des choses inacceptables. Alors, je dis, si on parlait de cette qualification, le gouvernement a l'institut professionnel de préparation, qu'on appelle IINPP. Chaque année, il y a des gens qui sont formés là-bas. Combien de gens sont engagés par l'État qui lui-même est en train de former? Là, c'est une première question. La deuxième question, si on dit de l'expérience, oui, depuis que je suis né, pour engager quelqu'un, on nous demande seulement 5 ans d'expérience. nous allons acquérir cette expérience où vous demandez de la qualification. Vous voyez qu'il y a la contradiction dans ce qu'ils ont fait comme recherche. Troisièmement, moi je trouve que ce qu'ils ont dit pour les talents, c'est ce qu'ils devaient d'abord étudier pour nous dire et défendre, et c'est ce qui pouvait nous trouver nous de l'emploi. Pourquoi ? Platon avait dit, ce n'est pas pour rien qu'il avait dit que touché par l'amour et les talents, tout homme devient un poète. Alors, je voudrais dire que pour développer ce pays en investissant dans le domaine de capital humain, nous demandons seulement au président et son gouvernement qu'il va bientôt
de faire quoi
nommer.
Oui.
Ces gens-là puissent travailler avec les talents. Nous avons des talents.
Même d'accord, merci. Merci Pierrot. Merci Pierrot, c'est entendu, nous avons des talents. On va donner la parole à Johnny de Mbujimayi. Johnny, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui. Bonjour, monsieur Johnny. Bonjour, docteur Michel Mouvoudi, qui est sur votre plateau. Alors, je viens juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Investir dans la santé et l'éducation est la meilleure manière d'assurer une bonne croissance économique à long terme. C'est en tout cas la conclusion d'une étude pilotée par l'Institut for Health Metrics and Evaluation et l'organisme statistique de l'Université de Washington. Et la notion ici appliquée aux États, elle est désormais considérée comme un indicateur de développement intéressant qui permet de combiner plusieurs facteurs et de prévoir des évolutions. Donc, les pays qui s'appuient sur une population bien formée et en bonne santé sont plus à même de conserver une économie dynamique dans les années à venir, qui pourra s'adapter aux changements des tendances. Comme tout capital humain, le capital peut en effet augmenter sous l'effet des meilleurs services d'éducation et de santé. Monsieur Jim Yong Kim de la Banque mondiale a appelé en juin par l'intermédiaire de son président à une mesure annuelle du capital humain. Ma question au docteur Michel Mouvoudi est de savoir comment est-ce que il a pris des précautions avec le CID, dont moi-même je suis membre, pour augmenter les effets des services d'éducation et de santé. Merci beaucoup pour la question.
Merci Johnny Dambujimayi. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour, et quelle est votre préoccupation par rapport à cette thématique?
Bonjour, et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, ma préoccupation, c'est comment on dit, par rapport à la considération après la formation. Qu'est-ce que son groupe donne? Parce qu'on est fatigué avec il est en train de les dire, les brevets, le bulletin, on est fatigué. Si après la formation, si tu veux aller à l'entreprise par exemple, tu es formé, on donnait l'information par exemple computer. On te forme pour connaître l'internet ou le computer. Maintenant, si tu vas après sa formation là, tu vas être engagé quelque part. Comment est-ce que tu prouves que tu as été formé? Je vais donner un exemple. Vous savez, j'aime bien ce qu'il a mis sur pied. Parce qu'ici, la formation, c'est chaque jour dans les entreprises. Même le public est formé. Dernièrement, ici, les cinq dernières années aux États-Unis, on est en train de faire le rond-point. On remplace le feu de signalisation par des ronds-points. On forme les gens dans des quartiers. Ceux-là qui savent comment tourner dans le rond-point, on appelle les gens, on vous forme. Mais la personne qui vous forme, il est connecté au gouvernement. Vous donnez, après la petite formation de 2 heures, de 2 jours, il est connecté au gouvernement, on envoie ton nom au gouvernement. Même si un jour on t'arrête par un policier d'une faute de rond-point, on voit que non, tu as été formé quand même, peut-être. Mon problème, c'est la valeur, c'est comment ils valorisent par rapport aux entreprises, par rapport au gouvernement, pour dire que non, cette personne est passée chez moi, il a été formé.
Merci Madame Joséphine de Boston aux États-Unis. Docteur Michel, vous avez la parole.
Merci beaucoup Jody. Donc, je pense que je ne peux que remercier les intervenants. Hein. C'est des idées, c'est des réflexions très intéressantes. Mm-hmm. Je commence par, je n'ai pas retenu le nom, mais notre collègue qui a justement touché la question de qualification et des compétences. Donc je vais juste lui dire qu'en fait, il a raison. Vous pouvez avoir des compétences, ok, vous pouvez avoir un savoir, mais cela n'est pas directement dit que vous allez faire ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est comme ça que, au-delà d'avoir
beaucoup d'intellectuels en RDC, mais on a l'impression que ça ne marche pas.
Et c'est comme ça que dans le groupe, nous insistons beaucoup sur les valeurs. Parce que déjà, sur nos valeurs, on a la bonne gouvernance, on a cet esprit de solidarité, on a déjà cet amour qu'il faut avoir en disant « Oui, moi, si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que justement j'ai un concours des personnes ou des systèmes, mais à mon tour, je peux aussi m'investir pour pouvoir aider les autres. » Donc, il y a toute une série de valeurs. Il a parlé avant de quelques valeurs, et je citerai aussi la motivation intrinsèque, la bonne gouvernance, la solidarité, qu'il faudra vraiment mettre au centre pour que les gens qui sont compétents puissent travailler pour le pays. D'accord ? Ça, c'est très important. Mais qu'on comprenne aussi par rapport à ça que si justement vous allez dans des institutions, il a posé une question sur les expériences. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous postulez, on vous dit 10 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Et quand je vois les membres me revenir, ils me disent, mais quand est-ce qu'on va avoir 15 ans d'expérience? Mais du coup, il est question de commencer à se dire, comment nous qui travaillons, comment nous qui avons des entreprises, comment nous qui avons la facilitation XY, peut-on mettre en place des mécanismes pour que, par exemple, les gens qui terminent aujourd'hui commencent au moins l'apprentissage par un stage? Moi, j'ai vu des gens venir, je leur ai dit, écoutez, vous venez de finir vos études, la première des choses, ne visez pas à avoir un travail au sommet, commencez déjà par apprendre le métier. Ça peut être que quelqu'un veut d'abord un stage professionnel. Mais aujourd'hui, le cas, c'est quelle est la situation aujourd'hui? C'est que ben, vous avez des gens qui vous disent, nous, on ne peut jamais prendre un stagiaire, on ne peut jamais prendre quelqu'un pour qu'il soit formé. Mais si tout le monde fait la même chose, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le CID essaie de travailler avec quelques partenaires en disant, commençons à former la relève. Commençons déjà à regarder comment on peut ouvrir des espaces pour accueillir des gens, parfois qui ne demandent rien. Je vous donne un cas typique. Une dame est revenue de l'Afrique du Sud après avoir fait cette année là-bas. Elle me dit, je voudrais réintégrer, je voudrais travailler. J'ai dit, mais madame, vous avez fait quoi? Elle me dit, j'ai fait la gestion financière. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, la gestion financière, il faut connaître un logiciel comptable. Ce n'est plus comme à l'époque où il n'y avait pas de logiciel. Oui. Je me dis, mais par où je commence? J'ai dit, mais ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez commencer par une formation dans un projet où vous apprenez comment ce logiciel fonctionne. Parce qu'une formation de ce niveau-là, ça va vous coûter cher et ça ne se passe pas ici. Le monsieur a accepté de le recevoir gratuitement et a dit, écoutez, elle peut venir.
Dans une entreprise.
Voilà. Elle va suivre, elle va apprendre. Oui. Mais je dis, au décours de cette formation, la femme s'est montrée très excellente. Et
elle a maîtrisé les logiciels.
Voilà. Et le monsieur m'a dit, écoute, moi, cette femme, c'est elle qui devra continuer la comptabilité ici. Je lui donne un contrat. Mais quelle est la leçon? C'est que les gens ont besoin d'être orientés. Les gens ont besoin d'un conseil pour se dire par où je commence. Parfois, ça peut être non. Écoute, tu viens de finir, calme-toi. Fais d'abord cette formation. Aujourd'hui, tu as terminé, mais tu ne connais pas l'informatique. Mais est-ce que tu peux d'abord faire 6 mois d'informatique? Petit à petit, tu investis justement dans ton capital pour que demain, quand on va dire on a besoin de quelqu'un qui peut, ben, tu veux y arriver. Oui. Deuxièmement, c'est aussi que les gens comprennent que nous qui étions, nous qui sommes dans des écosystèmes où on peut offrir de la facilitation, on peut offrir de la formation, mais soyons ensemble pour dire dans quelle mesure on peut ouvrir des espaces pour accueillir les gens qui veulent justement commencer aussi une amorce de leur carrière. Et c'est possible, parce qu'on est en train de montrer cela. C'est vrai qu'un tel système va se mettre correctement en place au décours d'un bon élargissement en tâche d'huile. Et donc ça, c'est vraiment important à le savoir. Et je crois qu'il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Alors, sur toutes ces questions d'investissement dans le capital humain, je crois que Johnny l'a très bien dit. Et merci beaucoup, Johnny, d'avoir non seulement participé à l'émission, mais aussi d'être dans le groupe. C'est clair que nous devons mettre un focus sur ça. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des économies positives. C'est en fait l'éducation, la santé. Comment préparer les générations futures? La préparation des générations futures, je dis, c'est vraiment tout ce que nous faisons aujourd'hui pour que les gens actuels puissent avoir des capacités à perdurer avec leurs idées, leurs connaissances, mais c'est surtout investir dans les jeunes actuellement. D'accord? Et donc, ça va être très important. Et donc, dans le cadre du CID, je n'entre pas dans le détail, je crois que Johnny le sait, on a tout un programme qu'on appelle le CID Éducation. Je ne vais pas donner les détails ici, mais je crois qu'on aura probablement des opportunités d'en parler, mais
L'idée, c'est que nous, déjà, dans la plateforme, on a commencé à mobiliser des ressources pour permettre à ce que l'éducation de base soit quand même assurée pour certaines écoles. Le besoin est très grand, je vous dis.
Oui,
je pense
sûr.
Qu'il faut commencer quelque part. Parce que j'étais surpris, je parlais à quelqu'un sur la question de l'éducation RDC. Il me dit, mais si tu me demandes de faire quelque chose dans l'éducation, mais quel est le rôle de l'UNICEF? Donc aujourd'hui, dans ce pays, on pense que l'éducation, c'est l'UNICEF.
C'est l'UNICEF, c'est l'État.
La santé, c'est la Banque mondiale, l'OMS. Voilà. Mais non! Il faut que déjà nous...
On ne doit pas croiser les bras parce que l'État ne fait rien.
On a mutualisé des ressources. Moi, j'étais dans une ville ici dans l'RDC. Un enfant a été chassé de l'école parce qu'il n'a pas payé 2500 francs par mois de Minerval.
2500, c'est ça.
Voilà. Alors que dans ce pays, on sait qu'il y a des gens qui peuvent facilement dépenser 100 000 dollars pour une fête ou quoi, je ne sais pas. Mais on a des inégalités criantes. C'est sous ça qu'il faut justement se dire, il faut commencer. Et le pic santé... Johnny, je pense que tu peux regarder le contenu, on a une stratégie. C'est justement travailler sur le réseau autour de questions de santé qui ont un impact sur le développement du capital humain. Donc je ne vais pas entrer dans le détail. Sur le site, vous pouvez trouver tous ces éléments-là et comprendre comment on va avancer. Mais je dis que le site, ce n'est pas une structure isolée. On est partenaire à d'autres structures, on ne peut pas tout faire. Mmh. Mais on se dit, plus on a une grande masse critique, plus justement on peut changer ce paradigme. Et donc, je termine rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Madame Joséphine, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission de Très Loin. Ce que je peux vous dire ici, c'est justement, la question c'est après la formation. Et je peux vous dire que le site, ce n'est pas que la formation. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, justement, commençons d'abord par former les gens sur des besoins actuels. Aujourd'hui, les gens, parfois, ils se font former sur des thématiques qui ne correspondent pas à la demande actuelle. Mmh. C'est déjà bien de dire à quelqu'un, tu es un RDC, voilà la demande aujourd'hui. La demande aujourd'hui
sur le marché.
ABC, voilà. Est-ce que tu peux faire cette formation-là? Ça, c'est déjà beaucoup. Et ça va permettre à la personne de ne pas se aller de manière éparse, de manière éparse dans toutes ces formations. Mais ce conseil-là, c'est déjà beaucoup pour dire, tu as fini en économie, mais est-ce que tu connais ça? Fais la formation en ceci. Tu as fini en ceci, est-ce que tu connais l'anglais? Aujourd'hui, par exemple, je commence à pousser les gens du groupe en disant, apprenez l'anglais, parce que de plus en plus, le challenge sur l'anglais devient important et beaucoup de postes sont lancés, la connaissance de l'anglais est exigée. C'est déjà beaucoup. Maintenant, après... Le groupe, j'aurai le temps de discuter avec vous, le groupe est en train justement d'interroger les espaces qui peuvent permettre à ce que les gens qui ont des diplômes soient convertis et que les gens puissent donner des services.
Est-ce que Madame Joséphine veut savoir la valeur qu'on donne à la formation, que les gens qui ont terminé aussi, par exemple
Par exemple, oui, mais cette valeur, il faut justement la mesurer, pas en termes de papier. Je crois qu'il faudra commencer à quitter ce paradigme de formation
égale papier, voilà. Diplôme, brevet.
Qu'est-ce que je peux faire? Et un élément important, je vous dis, c'est pousser les gens à dire, aujourd'hui, nous sommes dans un espace où l'on peut être limité. Dans quelle mesure, justement, on fait des formations pour permettre les gens à se prendre en charge, se dire, qu'est-ce que je peux créer? Comment je deviens compétitif? D'abord, pour ce qui existe. Deuxièmement, mais comment je peux aussi être un générateur d'idées pouvant créer de la production. Ça, c'est très important dans ce contexte où on est. Mais évidemment, on travaille avec d'autres partenaires. On ne peut pas être seul à croire que le groupe CID va tout faire. Non, nous avons des partenariats stratégiques opérationnels avec des gens qui parfois disent que nous pouvons vous donner ceci, nous pouvons accueillir des stagiaires, nous pouvons vous permettre à ce que les gens fassent une visite guidée pour voir ce qui se passe.
Voilà.
Et donc, on combine plusieurs instruments et l'idée, c'est d'arriver à cela. Et c'est comme ça, justement, que nous demandons à toutes ces personnes qui sont aussi en dehors du pays de pouvoir connecter le réseau parce que justement dans ces pays
vous pouvez fédérer les efforts et puis
nous avons
eu
des gens
efforts.
Qui ont partagé les bourses d'études, les opportunités de formation à l'étranger et quand les gens ont concouru, les gens ont réussi, ils sont partis et en revenant, ces gens ont eu de nouvelles idées, ils ont créé de la production et ils ont commencé justement à impacter les vies des gens. Donc je pense que c'est ces paradigmes en coalition, en synergie, en solidarité pour moi qui peut sauver la RDC.
Évidemment, on va accueillir Glody, on va terminer avec Glody de Bandonville et Braz de Kinshasa. Brièvement, Glody, bonjour, quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Oui, j'ai juste ajouter un petit problème là. Nous avons un peu vraiment le problème de la conception. Parce que nous ne donnons pas valeur à nos propres fruits. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un part étudier à l'étranger, il rentre au pays, il est plus considéré par rapport à ceux qui ont étudié dans le pays. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser à former les gens dans notre pays, mais à la fin, on ne donne pas les valeurs à ces personnes-là? Vous voyez, ce sont des histoires vraiment qui ne plaisent pas vraiment à la population congolaise. Et exemple ici, dans notre pays, si vous osez à terminer, à peine de quitter le banc de l'université, si vous allez chercher le boulot quelque part, on vous demande, il faut avoir l'expérience professionnelle de 5 ans. Mais tandis que c'est à peine que vous venez de quitter l'université.
D'accord. Merci.
C'est pas la même.
Oui, oui. C'est pas gentil. Oui. Alors, merci.
Je pose la question à l'invité.
Rapidement.
Oui, je pose la question à l'invité de savoir, mais lui, en tant que le docteur, quelles sont les solutions qu'il peut donner? Parce qu'il peut proposer un plan et il peut proposer ça au niveau du gouvernement.
D'accord.
Le gouvernement peut adopter ça et...
Merci, Glody.
On va avoir une bonne
soirée. D'accord. On va accueillir Brass de Kinshasa rapidement. Brass, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question rapidement? On n'a plus beaucoup de temps.
Oui, d'abord, je commence par saluer le TL, docteur Mouroudi, Michel, qui est notre TL. Et juste une petite contribution par rapport à l'émission.
Oui.
Le groupe, le plateforme CID est là pour permettre à ce qu'il y ait une autonomisation. Chez nous, en santé publique, on parle d'empowerment. L'empowerment, c'est amener la population à se prendre en charge. Mmh. C'est le même principe que applique le groupe CID, donc le plateforme CID. Quand on vous amène dans des formations avant, comme tout le monde le sait, tout ce qui était comme formation, offre d'emploi, c'était quelque chose de caché que beaucoup de gens n'étaient pas au courant, ne devaient pas savoir. Mais par le biais de CID, on a ouvert un espace où tout le monde est en mesure d'avoir ce qui était réservé à certaines
Merci.
Personnes.
Merci Brass, on n'a plus beaucoup de temps, on va clôturer par ici. Docteur Michel Mouvoud dit donc on n'a pas eu le temps de... peut-être on n'aurait pas le temps de tout épuiser.
Voilà. On pense que c'est la première partie.
C'est la première partie, on va vous accueillir une prochaine fois.
Exact.
Alors pour terminer, comment entrer en contact avec le CID?
Alors, le CID a un siège à Kinshasa, donc sur l'Imété 2e rue. Numéro 5, et nous avons des représentations dans toutes les 26 provinces. Donc, vous pouvez facilement appeler le plus 243, 81,
52,
055.
Ok.
Et donc là, vous pouvez demander d'entrer en contact avec moi si vous voulez qu'on discute, qu'on approfondisse. Et on est très ouvert parce que nous sommes un groupe intelligent. Mmh. Et donc, nous sommes très à l'écoute et nous modifions nos outils aussi en prenant les expériences des autres.
D'accord.
Mais vous pouvez aussi écrire à contact@cid-rdc.org.
contact@cid-rdc.org.
Et là, vous pouvez demander rendez-vous, vous pouvez venir partager une idée, vous pouvez dire, écoutez, moi, je suis dans une université et je vois des formations qui sont lancées, mais je ne pense pas qu'à Kanyabayonga ou à Bikoro, les gens sont au courant. Comment le site peut m'aider à ce que ces opportunités soient
arrive
disséminées
là-bas, oui,
voilà. Et donc, le groupe est très disséminé, on est en train de travailler sur un réseautage et donc, on peut aider justement
D'accord.
les gens à être au courant.
Merci, docteur Michel Mouvoudi, coordonnateur de la plateforme CID. Et c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Capi Service. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.
Merci.